Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Patience Ngalula.
D'abord les titres. En sport, les Léopards s'inclinent devant les éléphants de Côte d'Ivoire. 0-1 pour la Côte d'Ivoire. C'est le score qui a sanctionné le deuxième match de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 hier mercredi. À l'Équateur, 800 ménages parmi les plus sinistrés des dernières inondations ont reçu hier mercredi l'aide humanitaire du gouvernement en Mbandaka. C'est à travers la Caisse des solidarités nationales et gestion humanitaire des catastrophes, un service du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. L'invité de ce journal est Germain Baviave, conseiller principal au bureau d'études du Sénat et responsable des recherches à l'Institut supérieur d'études parlementaires. Il parle de son livre intitulé « Vers les législateurs évaluateurs, nécessité de surveiller l'exécution et les effets des lois en RDC ». On ouvre ce journal par les sports football, bien entendu. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, plus forts que les léopards de la RDC. 0-1 pour la Côte d'Ivoire. C'est le score qui a sanctionné le deuxième match de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 hier mercredi. Après les coups de sifflet final, Vanessa Kongolo a recueilli les réactions des supporters à Kinshasa. Beaucoup se disent déçus, tout en saluant les chemins parcourus par notre 11 national et en espérant que les Léopards vont faire mieux lors de la petite finale pour la troisième place. Ça sera ce samedi face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Suivez.
En tout cas, je ne sais pas quoi dire.
Personnellement, déçu.
Très déçu. Très déçu. Mais bon, pour la petite finale, peut-être qu'on va, gagner la troisième place. Ça nous permettra au moins de sortir la tête haute.
Et le parcours des Léopards à cette CAN, comment l'avez-vous jugé?
Ils se sont bien défendus. Ils ont très bien joué. La RDC, on a manqué juste un finisseur en fait.
C'est quand même avec beaucoup d'émotion, hein, rempli de tristesse, mais c'était un match. Les Léopards ont fait un bon match jusqu'ici. Depuis la CAN, ils ont fait beaucoup d'exploits et aujourd'hui on a perdu. C'est qu'un match et on attend la troisième place.
Ça nous fait mal, c'est normal, on est éliminé. On espérait être qualifié, mais là, ça ne fait que mal. Je ne sais pas quoi dire en tout cas.
Alors vous êtes en pleurs, pourquoi?
Parce que j'ai très mal, c'est normal. J'ai soutenu mon équipe à 100%. Ça me fait très mal de perdre. J'espérais que nous allons être qualifiés, prendre ces coupes, mais malheureusement, on est éliminés.
Alors, match de la troisième place ce samedi contre l'Afrique du Sud. Quelles sont les chances que vous accordez au Léopard?
Bon, être troisième, c'est pas mal aussi. Hein. Mais on espérait plus avoir la coupe. Donc, on est triste, mais quand même, ça va nous faire du bien.
Inondation de Mbandaka dans la province de l'Équateur. 800 ménages parmi les plus sinistrés des dernières inondations ont reçu hier mercredi l'aide humanitaire du gouvernement. C'est Raymond Bongolé, directeur général de la Caisse des solidarités nationales et gestion humanitaire des catastrophes, un service du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire qui a remis ses kits d'urgence en présence du gouverneur de province, les membres du comité provincial de sécurité et la société civile. Ces kits sont composés notamment des mousses, des habits, des sacs de riz et d'autres biens de ménage. On écoute les explications de Raymond Bongolé.
Nous, aujourd'hui, à Mbandaka, nous sommes arrivés pour assister un premier lot, j'insiste, un premier lot de 800 ménages les plus vulnérables, victimes des inondations qui ont secoué le pays. Dans ce lot, on a donné à chaque ménage un kit d'urgence composé de mousse, de pièces wax pour dames, de sacs de riz, d'huile végétale, du sel, du sucre, des assiettes, des seaux et des gobelets. En gros, on a remis à chaque ménage le kit d'urgence composé de vivres et non-vivres. Comme vous les savez, il y a les équipes qui ont travaillé sur le terrain pour faire le tableau de liste. Il y a la Croix-Rouge de la RDC qui est l'auxiliaire du pouvoir public. Il y a la division des actions humanitaires et solidarité nationale. Ils ont fait le travail, ils ont identifié plus de 5000 ménages victimes. Mais pour l'instant, on a tenu compte de ménages qui n'ont pas de logis, de ménages qui sont hébergés dans les sites transitoires ou dans les différents centres de Mbandaka. Ceux-là vont bénéficier de cette première assistance. La prochaine étape, c'est l'évaluation. Comme vous le savez, avant de quitter Kinshasa, on a donné les moyens au secrétariat général aux actions humanitaires et à la solidarité nationale pour qu'ils fassent des évaluations approfondies qui vont prendre en compte les aspects sanitaires.
Et puis, tout le gouvernement Samalou Kondé est réputé démissionnaire a daté du 20 janvier dernier avec la prestation de serment du président de la République pour son second mandat. C'est ce qu'affirme à Radio Okapi le constitutionnaliste Jacques Joly. Selon lui, les débats autour de l'incompatibilité des fonctions évoquées par l'article 108 de la Constitution ne devraient pas en principe avoir lieu dans le contexte actuel. Il dit regretter que le premier ministre n'ait pas déposé la démission de son gouvernement au lendemain de la prestation des serments du chef de l'État afin de formaliser l'expédition des affaires courantes. Michel Kifindangoy.
À en croire le professeur Jacques Joly, la polémique autour du cumul des fonctions par des membres du gouvernement élus députés nationaux ne devrait pas se poser si le premier ministre avait déjà déposé la démission de son gouvernement par élégance politique.
Les ministres savent qu'ils sont tentés de gérer l'affaire courante. Il aurait été beaucoup plus formel que le premier ministre, les lendemains de la prestation de serment, déposa la démission de tous les gouvernements. Il n'y aurait pas toute cette ambiguïté
privée. Et d'un gouvernement muni de plein pouvoir depuis plusieurs mois, le chef de l'État ne sait répondre aux besoins urgents de la population, déplore le constitutionnaliste Jacques Joly.
Il faut regretter cette situation. Vous vous rendrez compte que le gouvernement devient pratiquement inapte à travailler depuis le mois d'octobre. Dans cette période où nous avons des menaces, des attaques graves, nous nous retrouvons avec des institutions hémiplégiques qui ne peuvent pas répondre aux urgences de la survie de la nation.
Au regard de cette expérience, le député national Jacques Joly réaffirme la nécessité d'une révision constitutionnelle afin de permettre au président de la République de se doter d'un gouvernement juste après sa prestation de serment.
Entre-temps, la société civile urbaine de Beni exprime sa déception après l'annulation de l'élection des gouverneurs et sénateurs au Nord Kivu par la Commission nationale électorale indépendante CENI. Dans son communiqué du 2 février dernier, la CENI annonçait en effet l'annulation de l'élection des gouverneurs et sénateurs dans les deux provinces sous état de siège, l'Ituri et le Nord Kivu. La société civile estime que cette décision veut éterniser l'état de siège dans ces deux provinces alors que ces régions d'exception a montré ses limites sur les terrains, affirme Pépin Kavota, président de cette structure citoyenne. On l'écoute au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Il serait mieux que la CENI puisse carrément annuler, ou laisser à ceux que nous ne pouvons pas voter parce que ça ne servira à rien. Mais dès lors qu'ils ont laissé à ceux que les candidats députés provinciaux bousillent l'argent, bousillent pas leur énergie, donc ça laisse à croire que l'état de siège est loin d'être levé, alors que l'année passée, le chef de l'État lui-même avait convoqué une table ronde où tous les participants ont levé l'option pour lever l'état de siège. L'état de siège, du reste, qui a démontré ses faiblesses, parce que toutes les entités qui sont en train d'être récupérées, c'est sous cet état de siège qui, n'est-ce pas, dans l'esprit des ordonnances, on pensait que ça pouvait, n'est-ce pas, nous amener la paix. Mais hélas, la paix n'est pas là.
À Kindu, la CENI Maniema forme ses chefs d'antenne et leurs logisticiens ainsi que les membres du secrétariat exécutif sur les procédures des cooptations des chefs coutumiers et sur l'ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Bushiri Mutoma Sylvestre, secrétaire exécutif provincial de la CENI Maniema, explique l'objectif de cette formation qui devra durer 3 jours. Il est au micro de Florence Kizalunga.
La cooptation des chefs coutumiers, c'est un problème très difficile. D'abord, sur place, il y a ce qu'on appelle la course au pouvoir des chefs coutumiers. Il y a la politique qui intervient aussi. On va vous demander seulement d'être plus prudent pour suivre ce qu'il fait, d'être dévoué à ce qui va se faire ici et être plus prudent sur le terrain pour la gestion de qui doit être dans la salle, qui doit être coopté et qui ne peut pas être coopté. Si vous allez à la contre de ça, nous risquons d'avoir des problèmes inutiles. C'est les problèmes des chefs coutumiers. Ce n'est pas notre problème. Ne prenons pas leurs problèmes pour le nôtre. Notre problème, c'est que nous avons la liste de ceux qui vont venir, ils vont faire leur travail et vous faites les PV que vous allez envoyer. Ne vous immiscez pas dans les conflits des chefs coutumiers. N'entrez pas, sinon vous allez laisser votre peau parce qu'on risque de vous indexer comme celui qui a transféré les pouvoirs d'une famille régnante à une autre. Vous allez faire la présélection et la sélection va se faire à Kindu, mais la cooptation va se faire au niveau de l'Assemblée. Mais c'est une longue chaîne et vous êtes les procéduriers de tout le temps.
En Itourie, les casques bleus de la MONUSCO installés dans 9 bases militaires assurent la protection des civils, dont des milliers de déplacés dans les territoires de Djougou, Irumu et une partie des Mahagi. Deux délégations conjointes, MONUSCO et gouvernement provincial, séjournent depuis ce mardi dans ces entités. L'objectif est d'évaluer la situation générale en prévision des désengagements de la mission onusienne dans cette province. Isaac Remoyope.
Cette délégation composée des officiers des FARDC, des responsables des services de l'État en charge des protections et des différentes sections de la MONUSCO ont pour mission d'évaluer les réalisations conjointes pour la protection des civils et les défis qui restent à relever avant les retraits définitifs de la MONUSCO. C'est là en vue de faire les transferts des compétences au gouvernement dans plusieurs domaines. Il s'agit surtout de la sécurité des sites et des déplacés dont la plupart sont actuellement sous la protection directe des casques bleus, mais aussi les mécanismes et des protections, dont les plans de protection communautaire, les systèmes d'alerte précoce, les rapprochements entre les différentes communautés ethniques. Selon des sources de la MONUSCO, les données recueillies vont permettre de développer des mécanismes et des réponses au gouvernement de la RDC et à la MONUSCO avant son désengagement et après son retrait définitif de la province. De Djougou, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Goma, présentation hier mercredi des 44 présumés bandits armés ainsi que des effets militaires et civils à la mairie de cette ville. C'est le bilan des opérations menées par les services de sécurité dans la nuit de mardi à hier mercredi dans les quartiers Bujovu et Majengo dans la commune de Karisimbi. La mairie de Goma dit multiplier les opérations de bouclage en raison de la pression constante de l'ennemi dans la ville. Le maire de Goma demande à la population de garder son calme, mais de dénoncer systématiquement tout cas suspect. Bernardine Djambou pour plus de détails.
Parmi les 44 personnes appréhendées figurent 4 militaires, 5 hommes et 3 femmes rwandais en situation irrégulière. Concernant les effets militaires, on y compte 5 armes AK-47, une arme marque JP, 3 chargeurs garnis, des chargements vides, des gilets anti-balles, 3 colis de chanvre, de la drogue et autres effets militaires et civils. Les maires de la ville de Goma justifient pourquoi avoir multiplié les opérations de bouclage dans la ville de Goma. Le commissaire supérieur principal, Foster Kapens, commande.
En dépit de la pression de l'ennemi sur la ville de Goma, nous avons essayé de faire l'autopsie sécuritaire dans la ville. Je sais que la ville est fortement militarisée. D'une part. D'autre part, il y a les inciviques qui en profitent pour faire de n'importe quoi. Et j'invite la population à la sensibilisation communautaire parce que profitant aussi de la fragilité socio-économique des déplacés de guerre qui viennent solliciter de l'aide dans la ville et une fois désorientés par les inciviques vers les maisons de tolérance, et ils sont victimes de beaucoup d'antivaleurs.
Le maire de la ville ajoute que les 7 militaires arrêtés ont été déférés à l'auditorat militaire de garnison de Goma, tandis que les civils rwandais ont été mis à la disposition de la DGM Goma. Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, 350 miliciens ou Gambukali ont rendu les armes dimanche dernier à Ubundu, territoire situé à 125 km au sud-est de Kisangani. Ces miliciens Lengola sont venus de l'axe Walengola-Babira sous la conduite du général autoproclamé Asomba Kolongo alias Kayete et de l'axe Baleka sous la houlette du général autoproclamé Amissi Mukokoma André. Les points avec Jacques Mukonkole.
L'administrateur intérimaire d'Ubundu déclare avoir reçu de la matinée 250 miliciens, dont 8 femmes. Et dans la soirée, un autre groupe de 100 miliciens, dont 2 femmes. Ils ont pu déposer quelques armes, notamment 12 armes de calibre 12 de fabrication locale, 5 machettes, 10 lances, 2 arcs à flèches, des fétiches ainsi que d'autres effets qu'ils ont brûlé publiquement. Oumolela Imungamba ajoute que ces miliciens déclarent avoir mis un terme à ce conflit contre leur frère Mbolé afin d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de développement du pays. Ils demandent pardon à la population et aux autorités provinciales pour le mal qu'ils ont commis. Ils sollicitent ainsi leur indulgence en faveur de leurs compatriotes incarcérés à la prison centrale de Kisangani. Rappelons que la semaine dernière, un autre groupe de 25 miliciens Lengola de l'ex-Kisangani-Ubundu ont posé le même geste. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les Zimbabwéens abrogent la peine de mort héritée de l'époque coloniale. Dans une décision saluée à l'échelle nationale et internationale, les Zimbabwéens ont franchi un pas décisif vers une ère de justice plus humaine en abolissant la peine de mort. Après des mois de débats houleux au Parlement, le gouvernement zimbabwéen a finalement adopté mardi une proposition de loi visant à mettre fin à cette pratique héritée de l'époque coloniale britannique. Cette décision marque un tournant majeur dans l'histoire judiciaire du Zimbabwe, affirmant l'engagement du pays en faveur des droits de l'homme et de la dignité humaine. Au lieu de la peine capitale, le gouvernement a opté pour l'imposition de longues peines d'emprisonnement pour les crimes les plus graves, conservant ainsi l'élément dissuasif tout en préservant les droits fondamentaux à la vie.
L'invité.
À quoi servent les votes des lois et les contrôles parlementaires si cela n'apporte pas de changement à la situation des Congolais? Il faut une troisième mission aux législateurs, celle de l'évaluation des politiques publiques afin de booster les changements en RDC. C'est ce qui ressort du livre « Vers les législateurs évaluateurs, nécessité de surveiller l'exécution et les effets des lois en RDC ». Son auteur est Germain Bavyav, conseiller principal au bureau d'études du Sénat et responsable de recherche à l'Institut supérieur d'études parlementaires. Il est l'invité des Radio Okapi. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Monsieur Germain Baviar, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes auteur du livre « Vers les législateurs évaluateurs, nécessité de surveiller l'exécution et les effets des lois en République démocratique du Congo ». Avant toute analyse, qu'est-ce que vous entendez par l'évaluation législative? Quelles sont ses fonctions et ses finalités?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Vous avez posé une bonne question. En effet, toute évaluation repose sur une analyse scientifique, une appréciation méthodique ou un outil qui essaie de mettre de la valeur, de donner, étudier quels sont les effets finalement de la politique publique. Et c'est une évaluation faite par le législateur ou les parlementaires. Elle a pour fonction de faire en sorte que nous puissions prévoir ce que nous aurons à faire, prévoir les effets potentiels d'une législation. S'il s'agit d'une évaluation ex ante, c'est-à-dire avant, en amont, on voit ce qu'on va faire. Ça a une fonction de prévision, ça a aussi une fonction de contrôle, c'est-à-dire l'évaluation soutient le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire est un peu sélectif, mais l'évaluation vient donner de la valeur, elle est totale, elle repose sur des outils qui fassent en sorte qu'on aille au-delà du produit, mais qu'on étudie quels sont les effets, quel est finalement l'impact de la loi.
Y a-t-il des pays dans le monde et en Afrique qui ont déjà recouru à l'évaluation législative?
Certes. Il existe beaucoup de pays qui ont inséré l'évaluation dans l'action publique. La France a introduit dans sa constitution depuis 2008 une troisième mission des parlements. Le parlement vote les lois, contrôle le gouvernement et évalue les politiques publiques. Il y a pas mal de pays francophones qui ont aussi inséré. Je citerai les cas du Maroc, du Sénégal, la Côte d'Ivoire, Niger. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a un processus maintenant. Il y a même une loi sur l'évaluation. Par exemple, le budget programme, ça doit aller de pair avec l'évaluation. Par exemple, les ODD, par exemple, la gestion axée sur les résultats. Et tous ces pays ont compris qu'ils doivent insérer dans leur arsenal juridique des clauses d'évaluation.
Pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire pour les législateurs congolais de développer l'évaluation législative en plus des missions constitutionnelles dévolues au Parlement?
Je pense qu'il est nécessaire que les législateurs congolais introduisent l'évaluation dans ces missions parce que les formes d'État ont changé. Maintenant, il ne suffit pas seulement de la légalité, c'est-à-dire contrôle si les normes sont conformes à la Constitution ou aux conventions. Maintenant, il faut savoir dire est-ce que cette loi va apporter tel ou tel changement. Si ceux qui accompagnent les parlementaires, c'est-à-dire les fonctionnaires, ne sont pas capables d'étudier les effets de la loi, c'est que nous passons à côté de ce qu'attendent les citoyens des parlementaires. C'est-à-dire quoi? Il y a des politiques publiques, des plans, des programmes au niveau des gouvernements. Il y a la gestion axée sur les résultats. Il y a la loi sur les finances publiques qui est basée sur le budget programme. La reddition des comptes, c'est des instruments qui voudraient que le parlementaire, finalement, repose ses analyses, non pas seulement sur la conformité de la loi, mais repose ses décisions sur une légitimité basée sur l'efficacité. Et ne peut, l'instrument ne pouvant étudier l'efficacité, L'effectivité, l'efficience, c'est seulement l'évaluation.
Que doivent faire concrètement les représentants du peuple au niveau tant national, provincial, municipal et local pour opérationnaliser l'évaluation législative et qu'est-ce que cela va apporter du point de vue du développement de la République démocratique du Congo?
Dans un premier temps, nous pensons que tous ces organismes, tous les bureaux des assemblées délibérantes au niveau national, provincial, municipal, doivent comprendre qu'il faut sensibiliser les parlementaires pour que nous installions dans notre pays la culture de l'évaluation. De deux, il faut que nous ayons ce qu'on appelle une infrastructure d'évaluation dans toutes ces assemblées, que nous institutionnalisions, que nous professionnalisions l'évaluation.
Monsieur Germain Baviave, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Permettez-moi que je dise un mot. Que sert-il à voter toutes ces lois? Que sert-il à contrôler l'action du gouvernement si toutes ces lois n'apportent pas les effets escomptés ou ne changent pas la vie des citoyens? Mon livre est une invitation aux législateurs, à tous les conseillers communaux, de pouvoir s'approprier un instrument important pour que leur travail apporte du changement dans notre pays. Je vous remercie encore, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de ce journal, mise en onde par Polydor Basunga, supervision et coordination Pelé Kipela Mondo, Patience Ngalula à la présentation. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.